Je me suis attaché dans mon livre de 2005 à déconstruire cette notion, non pas pour dire qu'il faut abandonner le principe du partenariat, mais qu'il faut peut-être le penser autrement, de façon à ce qu'il serve les intérêts de ceux qu'on voudrait toucher davantage par ce biais-là, et qui pourtant restent souvent à distance, à l'écart ce partenariat. Alors, c'est dans ce contexte que le partenariat s'est imposé comme nécessaire, l'école comme enjeu, la complexité des rapports avec des familles diversifiées, l'intensité des enjeux sur certains territoires, et les missions de l'école vont se diversifier, vont s'étendre, vont se complexifier. Et l'école, c'est l'école qui invente donc l'idée du partenariat qu'on peut définir comme une norme de régulation des scolarités. C'est-à-dire, ça doit être un mode de relation qui permet de prévenir, de réguler, de réparer sur le plan scolaire et comportemental. A priori, c'est ce qu'on pense. C'est-à-dire, des relations avec les parents, ça va aider à prévenir certaines difficultés, réguler par l'information qui va circuler, surmonter les épreuves d'une scolarité qui n'est jamais un long fleuve tranquille, comme on le sait bien. Donc le partenariat est là comme un modèle évident presque. C'est précisément de cette évidence dont il faut se méfier, et même nécessaire, et d'autant plus nécessaire qu'on est dans les quartiers populaires. Plus c'est difficile, plus on pense que la réponse passe par le partenariat. Alors, il faut se poser la question des intentions qui sont visées, des ambitions, de notre ambition, lorsqu'on pense dans ces termes de partenariat, et des conditions de possibilité, c'est ça qui m'intéressait, pour tous les parents d'être les partenaires que l'institution attend. Des conditions de possibilité pour tous les parents d'être les partenaires que l'institution attend. Et vous voyez que, formulé dans ces termes, on interpelle l'institution. On se dit, mais c'est quoi cette norme du parent d'élève, pour parler comme Dominique Dasman, c'est quoi cette norme du partenariat et des relations qui conviennent, la bonne distance, les modalités, le savoir-faire, le savoir-être qui va être conforme à ce que l'institution attend. Et donc le regard doit se porter tout autant du côté des familles que du côté de l'institution scolaire. Quelle est son idée, quelle est son attente à travers partenariat qu'elle appelle de ses voeux, à travers la coéducation, qui est aussi un autre mot d'ordre presque, j'ai envie de dire, depuis la loi d'orientation de 1989, pour que les parents fassent avec, c'est le modèle de faire avec l'école. Alors faire avec, c'est évidemment une visée qu'on est enclin à partager, mais une fois de plus, poser la question de est-ce que tous les parents sont dans cette logique, et est-ce que tous les parents savent comment faire pour être les parents partenaires qui vont coopérer, qui vont être associés. Et de ce point de vue, il y a des ambiguïtés, parce que finalement, est-ce que les parents sont dans un statut d'allié lorsque tout va bien? Est-ce qu'ils sont des auxiliaires scolaires? Vous voyez, quand il y a des devoirs à surveiller à la maison, ou lorsque l'enseignant dit à ses élèves qu'on n'a pas le temps de finir, vous finirez ça à la maison avec vos parents, avec maman. Ou lorsque, bien sûr, les parents sont censés prendre l'initiative, être informés, suivre la scolarité, comme ils disent si bien, alors même que parfois ils ne parlent même pas la langue française, ou si difficilement, donc on est assez loin de la possibilité pour eux, effectivement, d'être des alliés. Et puis ils sont souvent aussi dans la figure du recours. Et on n'a pas le temps ce matin, mais quand on regarde les choses strictement du point de vue des enseignants, on voit bien que c'est cette logique-là. C'est le parent recours. Pour les CPE aussi, c'est le parent recours, conseiller principal d'éducation. Hop, il se passe quelque chose, je prends mon téléphone, j'appelle les parents. Vous voyez, c'est le recours. Je ne dis pas que c'est bien ou mal, ce n'est pas la question. Le quasi-réflexe professionnel, c'est j'appelle les parents. Que font les parents? En plus, ils ne répondent pas, le numéro n'est pas bon. Et là, voilà, on commence à avoir tout un film et des images qui viennent à l'esprit, qui fait que déjà, sans même le connaître, quand on va le rencontrer, on aura déjà une idée un peu préfabriquée. hein, de ce parent-là par rapport à d'autres qu'on aura vus, qui ont été présents, qui ont réagi conformément à ce qu'on attend. Donc c'est un peu tout ça qu'il faut quand même déconstruire pour ne pas se laisser piéger nous-mêmes par nos préjugés et les fausses évidences qu'on construit à travers ce partenariat. Alors, juste un dernier mot sur cette diapositive pour dire que partenariat, c'est quand même l'idée assez ambitieuse finalement, qu'on fixe des objectifs et qu'on définit les moyens à mettre en œuvre pour les atteindre. C'est ça le partenariat. Hein. Il y a des finalités partagées et des moyens définis par les partenaires pour atteindre ces objectifs, les buts qu'on s'est fixés. C'est ambitieux. Peut-être faut-il préférer le terme de coopération, qui consiste à effectivement définir ensemble les moyens pour atteindre ces objectifs. Mais les objectifs ne sont pas nécessairement fixés par les deux parties. Hein. Peut-être que l'école, et c'est ce que nous disent un certain nombre de parents, elle a à définir hein, ce qui est bon scolairement pour l'enfant, comment le faire progresser, c'est sa responsabilité. Et les parents sont d'autant plus enclins à le penser qu'ils se jugent incompétents pour intervenir dans ce domaine. Hein. Donc laissons l'école travailler dans l'intérêt du plus grand nombre et de façon efficace. Concertation, collaboration, c'est faire ensemble la collaboration. Hein. Et donc, effectivement, il y a des parents qui collaborent, mais qui ne sont pas nécessairement partenaires, j'ai envie de dire. Hein. Parce que, voilà, à un moment donné, on est une maman qui va accompagner un groupe pour une sortie à la piscine, elle collabore. Hein. Elle n'a ni défini l'activité, ni même les moyens. On l'a juste sollicité à un moment donné. D'ailleurs, il y a souvent des parents de milieu populaire qui viennent à ce moment-là pour dire « Venez accompagner, si vous le pouvez, pour telle sortie, telle activité, ou... » le jour de la fête de l'école, tenir un stand, par exemple. Hein. Donc, on a une certaine sociologie des parents à ce moment-là qui n'est pas tout à fait celle des parents qui sont dans les conseils d'école, des conseils d'administration, des collèges et des lycées. Voilà. Alors, il y a une boîte noire. On va essayer de l'ouvrir ensemble, du partenariat, parce que chacun ici, je pense, sait que sur le terrain, c'est pas simple et que finalement, avec les meilleures intentions, on n'arrive pas... à atteindre nos objectifs, à toucher les publics, à résoudre les problématiques qui se posent à nous. Donc il y a une forme de boîte noire. Alors la boîte noire, c'est à travers certaines expressions ordinaires. Et il faut être très attentif au langage ordinaire, aux catégories indigènes, comme on dit, hein, c'est-à-dire comment les gens parlent des problèmes ou des questions, comment ça se pose, dans quel terme ça se pose pour eux. Et lorsqu'on parle effectivement du parent d'élève, hein, comme d'une évidence, il faut sans doute essayer un peu d'identifier les implicites, les impensés, comme je dis, c'est-à-dire ça paraît si évident qu'effectivement la question ne se pose même pas. Et il y a un certain nombre comme ça de points dont je me suis rendu compte à la faveur des entretiens avec les parents que ça n'avait strictement rien d'évident, hein, contrairement à ce que le modèle du partenariat semble laisser entendre. Qui peut-on rencontrer ? Quand ? À propos de quoi ? Selon quelle fréquence ? Je passe vite, hein, vous aurez le diaporama pour ceux qui s'intéressent. Donc déjà, il n'y a rien d'évident à se dire « je vais rencontrer un professeur principal ». Je vais rencontrer une conseillère psychologue pour l'orientation de mon enfant, copsy. Hein, quel étrange nom vu de l'extérieur quand même. Hein. CPE, professeur principal et l'autre qui ne l'est pas. Tiens, bizarre. Donc il y a comme ça un monde un peu étrange. Hein, Durkheim, notre père sociologue français, disait qu'il faut pénétrer dans le monde social comme on pénètre dans l'inconnu. Et je crois que c'est ces lunettes-là qu'il faut chausser lorsqu'on veut essayer d'éclaircir l'opacité du système éducatif. Hein, c'est se dire c'est complètement opaque. C'est complètement opaque. On ne perçoit pas bien ni les acteurs, ni la division du travail éducatif au sein de l'institution scolaire. D'ailleurs, même les acteurs professionnels, des fois, se demandent qui doit faire quoi. Donc, c'est pour dire qu'un parent extérieur peut parfois être un petit peu quand même perdu dans ce monde étranger dont il est peu familier, où il se sent à peine légitime, hein, ayant été lui-même peu scolarisé, parfois avec un sentiment d'échec. Il y a donc un mode d'emploi pas évident. Des obstacles pratiques eux qui le sont, évident. C'est-à-dire comment faire pour se libérer pour une réunion, puisque précisément je ne dispose pas de mon temps, je n'ai pas ce pouvoir sur mon temps. Comment prendre un rendez-vous ? Un rendez-vous, c'est un acte fort. Ça veut dire je vais disposer du temps de l'autre. Hein, je ne vais pas déranger les enseignants, disent les parents. Hein, il faut avoir un objet suffisamment important à discuter pour s'autoriser à dire je vais prendre rendez-vous avec un enseignant. C'est occuper une certaine position vis-à-vis de l'autre que lui demander de son temps pour un rendez-vous. Voyez, donc il faut avoir quelque chose à dire quand même et à argumenter. Et il y a beaucoup de parents qui pensent que voilà, ça ne se justifie pas et ils ne s'autorisent pas à prendre ce rendez-vous. Donc rien d'évident lorsqu'on dit mais pourquoi les parents ne sont pas venus nous voir ? Pourquoi ils n'ont pas demandé un rendez-vous ? Tout simplement, ils ne le peuvent pas. Des obstacles symboliques. Hein, quelle légitimité pour ces parents ? Comment est-ce qu'ils peuvent apparaître comme des interlocuteurs reconnus par l'institution scolaire, eux qui méconnaissent l'institution, qui ne comprennent pas bien les apprentissages de l'enfant. Une situation d'isolement face à l'école, donc il n'y a pas trop de relais, de médiation. Hein, c'est tout l'enjeu du travail qui a été fait par ATD Carmonde. Bruno vous en parlera. Mais voilà, quels sont les relais, les stratégies d'accompagnement que l'on peut déployer pour ces parents-là. Donc il y a une difficulté évidente à se positionner dans les relations, à se conformer au rôle attendu, à négocier ce que j'appelle la bonne distance. Vous voyez, une espèce de réglage, quoi. Hein, parce qu'il y a des enseignants qui vous disent « Oh là là, mais ces parents-là, je les vois tous les jours, ils me racontent leur vie, ça déborde. Hein, » un partenariat là, qui va au-delà du périmètre des sujets qu'on peut aborder. Mais quand est-ce qu'on les a définis ? Pas très clairement, hein, finalement. Donc, cette bonne distance et le périmètre des sujets qu'on peut aborder, tout ça me semble encore très flou, et surtout lorsqu'on écoute ces parents des familles populaires. Donc, il y a un rapport de dépendance et un sentiment d'impuissance vis-à-vis de l'école. Je crois que c'est deux termes qui, pour moi, caractérisent très très bien le rapport des familles populaires à l'école. C'est à la fois la dépendance vis-à-vis d'une institution qu'on reconnaît, dont on attend beaucoup et trop peut-être, et en même temps un sentiment d'impuissance, c'est-à-dire on ne sait pas faire, on ne maîtrise pas bien les règles du jeu, tout en partageant l'enjeu, mais les règles du jeu, on ne les maîtrise pas bien et on n'a pas les atouts, on n'a pas les ressources voyez, pour bien se placer, pour savoir faire, pour communiquer comme il le faudrait. Et la peur, dont on entend si souvent parler, c'est, dans un langage sociologique, l'expression de ce rapport de domination symbolique. Hein, c'est quand vous vous sentez petit face à une puissance que vous avez peur, effectivement, et c'est un peu ce que ressentent, me semble-t-il, un certain nombre de parents. Donc ils sont souvent dans une attitude de disponibilité bienveillante. Ils disent « nous on est là si besoin ». Hein, ils peuvent faire appel à nous, on viendra, on réagira, mais tant qu'ils ne font pas appel à nous, voilà, on le laisse faire parce que ce sont eux qui savent faire, hein, qui sont compétents. Alors la charge des devoirs, je vais passer vite parce que je me rends compte que je suis un petit peu bavard là. La charge des devoirs, c'est un très bel exemple. Hein. Je pense qu'il y a des formations organisées à l'IFE, bien sûr, sur cette question, cet enjeu, où là, on voit les parents qui sont pleins de bonne volonté. Hein. Voilà encore une illustration de la dépendance et du sentiment d'impuissance. Hein. Pleins de bonne volonté, mais avec le risque de mal faire. Donc des fois, ils font, mais ils ne font pas comme il fallait. Donc, c'est pas comme ça. Et donc, ils sont sanctionnés symboliquement par l'institution scolaire et, je dirais, par leur enfant. Parce que, je l'ai dit d'entrée, effectivement, il faut penser cette relation tripartite. Il y a l'enfant, ce go-between, hein, ce messager-message, cet agent de liaison hein, qui va faire le lien entre école et famille. Et il va être d'autant plus sollicité, présent, agent actif, qu'effectivement, les parents sont dans un rapport d'impuissance à l'école. Moins ils comprennent, moins ils maîtrisent, moins ils sont agissants, plus c'est l'enfant qui se retrouve à faire l'interface entre école et famille. Et donc, dans l'exemple que j'ai repris là, d'un entretien cette mère nous disant c'est dans la conjugaison, c'est pas son truc. Les verbes aussi, au niveau du sujet, verbe, des fois, il a un peu le COD ou je sais pas quoi là. Des fois, je dis à Julien, son fils, donc oh là là, l'autre fois, je lui explique un truc, il rentre de l'école et il me dit tu sais, maman, t'es nul. Je lui dis ah bon ? Oui, la maîtresse, elle a dit que c'était pas ça. C'est pas grave, je dis. Si, c'est grave. Parce qu'en fait, la mère, elle a fait avec son enfant en pensant bien faire. L'enfant à l'école lui dit « Mais non, tu as tout faux, c'est pas bon, on te dira à ta maman. » J'espère que la maîtresse avait dit que la maman était nulle, mais enfin, que c'est pas comme ça qu'il fallait faire. Et l'enfant revient à la maison pour dire à sa mère « T'es nulle. Hein ». Donc il y a une espèce de sanction symbolique qui disqualifie le parent, hein, qui ne peut plus être un parent aidant. « Tu comprends pas ma scolarité. » Et cette disqualification symbolique renvoie à l'enfant à lui-même, à la charge, je dirais, morale de sa scolarité, pour le meilleur et pour le pire. Hein. Et j'essaie un peu de travailler là-dessus, moi, actuellement, sur cette idée que finalement, il y a une automatisation scolaire précoce chez les enfants des classes populaires. Ils se retrouvent à devoir prendre en charge, pour le meilleur et pour le pire, donc leur destin scolaire, hein, puisque les parents sont impuissants et disqualifiés symboliquement. Donc il y a un processus de décrochage scolaire parental, voire de honte scolaire. Hein, Pierre Bourdieu parlait de honte culturelle, mais je crois qu'on peut parler de honte scolaire. Les parents, je ne suis pas allé longtemps à l'école, hein, moi je ne vais pas savoir. Des enquêtes, hein, j'ai donné des chiffres ici d'une enquête, montrent bien que les parents, très tôt, ne comprennent plus ce que fait l'enfant, ne peuvent pas aider, emploient des méthodes, hein, c'est l'objet de la citation, qu'ils ne comprennent pas. Alors la division, je ne sais pas ce qu'ils ont fait, didacticiens des mathématiques, mais alors, la méthode de la division... incompréhensible. Hein. Donc les parents disent « Bon, allez, au bout d'un moment, on va faire avec notre bonne vieille méthode. » Sauf que l'institutrice va leur dire, ou l'instituteur va leur dire que c'était pas comme ça qu'il fallait faire. Donc, l'école délègue implicitement des tâches scolaires. C'est un exemple des parents auxiliaires mis en situation d'impuissance qui requiert des compétences inégalement distribuées. Et donc les parents vont chercher à se tourner vers des structures externes, vont chercher des relais, hein, je pense à l'accompagnement dans les quartiers par exemple, parce qu'effectivement c'est une pomme de discorde, c'est un sujet de tension, c'est difficile, les parents sont disqualifiés, les enfants ne sont pas aidés. Donc voilà la configuration dans laquelle on plonge très très vite. Alors, on peut pousser un peu encore l'analyse critique du partenariat pour se demander s'il n'y a pas des effets pervers. C'est-à-dire que cette norme du parent d'élève, elle risque, en cas d'absence, en cas de parent carent, défaillant, de fabriquer la figure du parent démissionnaire. Hein, ce parent stigmatisé, je pense que d'une certaine manière, c'est l'idée même, la norme du parent partenaire, qui fabrique la figure du parent démissionnaire. Et alors, vous voyez que là, interpellation directe de l'institution scolaire, qu'est-ce qu'on fait finalement lorsqu'on dit qu'il faut des parents partenaires et qu'on les attend alors que tous ne viennent pas ? Eh bien, d'une certaine manière, on construit une catégorie de parents qui, par leur silence, par leur absence, vont devenir des parents coupables et qui vont devenir, de façon plus ou moins explicite, des figures de parents démissionnaires. Ces invisibles, hein, qui, par leur absence, effectivement, deviennent coupables ou parce qu'ils ne réagissent pas comme il faudrait, n'anticipent pas comme on l'attend. Et donc, finalement, il y a un effet pervers, là, assez insidieux, je dirais, sur lequel il faut peut-être vigilant, dans la mesure aussi où, finalement, l'école qui s'ouvre en direction des parents peut conforter l'avantage de ceux qui étaient déjà les plus à l'aise, les plus familiers avec l'institution scolaire. Vous voyez, un effet totalement contraire, d'une certaine manière, à ce qu'on cherche à faire, c'est-à-dire ça souligne l'éloignement de certains et ça valorise la présence d'autres, hein, qui déjà étaient plus familiers et plus en connivence culturelle avec l'école. Et donc c'est là que j'introduis ce concept du différent, hein, avec un D, qui nous dit qu'il n'y a pas accord sur les règles de l'échange. n'y a pas accord sur le partage des rôles et des responsabilités. Et dans le différent, un concept du philosophe Jean-François Lyotard, on comprend aussi que c'est l'impossibilité, en cas de malentendu, si vous voulez, en cas de désaccord, de trouver justement un accord, une règle pour sortir du conflit. Donc quand ça va mal, on ne sait pas comment faire. Le différent, c'est ça. C'est une situation qui va tomber dans l'impasse. Donc, on ne se parle plus, on ne communique plus, on ne veut plus se voir, on n'est pas sur la même longueur d'onde, me disait une mère. Et donc, s'il n'y a pas un tiers, une médiation, effectivement, la situation reste bloquée. Jusque le déni de réalité, parfois, parce qu'on voit des parents qui ne veulent plus reconnaître l'école dans ce qu'elle dit de leur enfant, de l'élève. Enfin, voilà, ils ont coupé avec l'école. Donc il y a un paradoxe du partenariat, et c'était ça qui m'avait, moi, intéressé au départ, c'est que il s'adresse à un parent idéal qui, évidemment, représente une minorité des parents. Donc vous voyez, c'est comme si on vous mettait un objectif inaccessible pour le plus grand nombre et qu'on allait vous juger à l'aune de cette norme. C'est injuste. C'est pour ça qu'il y a quelque part de l'injustice. Hein, parce qu'on la fabrique à travers ces normes inaccessibles pour une partie des parents. Et second paradoxe, c'est qu'il est plus développé là où il est jugé moins nécessaire. Hein, c'est-à-dire quand les résultats parlent d'eux-mêmes, vous voyez, les parents sont présents, voire surprésents, inutilement présents. Hein, et là où on aimerait les voir davantage parce que c'est difficile, eh bien, ils sont plus souvent absents en retrait. Donc il y a quand même un paradoxe qu'il faut questionner parce que ça fait quand même un certain nombre d'années que ça dure et donc réfléchir à sans doute inventer, on pourra y revenir, d'autres façons de penser ce partenariat.